Jésus, le Seigneur Jésus, veut conquérir les cœurs. Cette affirmation est vraie parce qu'elle est maintes fois démontrée dans la parole de Dieu. C'est le deuxième aspect du ministère actuel du Seigneur Jésus-Christ, que l'on connaît moins que le premier aspect de son ministère actuel. Alors je dis actuel parce que Jésus est ressuscité, il est auprès du Père, que je pourrais définir comme ceci: Jésus plaide continuellement en ma faveur. C'est cela, ce qu'on peut appeler, je dirais, le premier aspect du ministère actuel du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, nous le savons parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, nous relate de manière claire et à beaucoup d'endroits, en particulier dans le Nouveau Testament, que le Seigneur est monté au ciel, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, et que, étant aujourd'hui dans sa gloire, il intercède pour nous continuellement en notre faveur. C'est cela le premier aspect du ministère actuel du Seigneur Jésus-Christ. Et en tant qu'avocat, son rôle est aussi maintes fois, et on pourrait dire de manière continuelle, est là pour nous défendre face aux accusations souvent excessives et injustifiées du diable, pour nous justifier devant le Père, parce que nous sommes les uns et les autres, si nous sommes chrétiens, sous le couvert du sang et donc de la justice de Dieu. Ce même ministère qui est de pour le Seigneur d'intercéder pour nous a une deuxième composante. Et j'aimerais que l'on regarde ces deux aspects du ministère actuel du Seigneur Jésus à travers un seul et même verset du psaume 110 que je vous invite à lire avec moi. J'attends que tout le monde ait trouvé. Et ce verset nous parle des deux aspects du ministère actuel du Seigneur Jésus-Christ. De David, de psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Premier aspect, assieds-toi à ma droite. Deuxième aspect du ministère actuel du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je ne vais pas plus loin. Nous avons condensé en un seul et même verset là les deux ministères du Seigneur Jésus. Actuellement, alors qu'il est assis dans la gloire auprès du Père, dans la dignité absolue, le fait d'être à la droite de Dieu le Père lui donne à la fois dignité et pouvoir sur toute chose. D'ailleurs, le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, avant de les laisser, avant de partir, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, ce que je vais vous commander de faire, vous allez pouvoir le faire, pas avec vos propres capacités personnelles, mais avec la puissance que je vais vous donner pour accomplir ma volonté sur cette terre. » Et peut-être ce deuxième verset, qui est la deuxième partie de ce verset, est peut-être un petit peu mal compris. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, parce que on pense davantage à la fin des temps en lisant ce verset. Mais non, aujourd'hui, nous avons, frères et sœurs, un tas d'ennemis qui sont là et qui se débattent pour soit pour nous éloigner de Dieu, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ou alors, oui, pour nous éloigner de la foi et, pour ceux qui, aujourd'hui, ont mis leur confiance en Dieu. Et le diable est féroce et il agit continuellement contre les enfants de Dieu aujourd'hui. Mais le Seigneur a annoncé cette promesse de faire de ses ennemis son marchepied. Déjà aujourd'hui, jusqu'à ce que les temps de la fin arrivent et que tous ses ennemis soient écrasés sous ses pieds. Mais aujourd'hui, le combat, frères et sœurs, est encore réel. Alors peut-être avant de nous intéresser plus particulièrement à ce deuxième aspect du ministère actuel du Seigneur Jésus-Christ, qui est de conquérir les cœurs. Jésus veut effectivement aujourd'hui conquérir les cœurs, peut-être faire une observation linguistique sur ce premier verset. Remarquez que il est dit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur », Kyrios en grec, le Seigneur. Ça, c'est un titre évocateur. Il parle à la fois de la divinité et de l'humanité de Jésus-Christ, tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire assis à la droite du Père, revêtu d'un corps glorieux, ressuscité. Et il agit en notre faveur, mais également en faveur de tous ceux qui demain, ou peut-être même aujourd'hui, deviendront ses enfants. Jésus veut conquérir les cœurs, en plus d'intercéder en faveur des siens. Premier aspect, Jésus intercède en notre faveur continuellement. Deuxième aspect de son ministère actuel, Jésus veut conquérir les cœurs. Il est question de beaucoup de passages concernant cet aspect-là. Mais j'aimerais ce matin rester un peu dans la généralité. Peut-être on aura l'occasion par la suite de revoir un peu plus en avant la question. L'Ancien Testament est riche d'enseignements, mais n'est que l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir que le Nouveau Testament nous révèle clairement et en particulier s'agissant de Jésus-Christ. Si vous prenez par exemple le livre de Josué dans les 12 premiers chapitres, eh bien vous constaterez qu'il ne s'agit que de conquête. Israël va avancer dans le pays, jusque dans le pays d'Israël, en conquérant. Mais jamais avec ses propres forces, avec la force et la puissance que Dieu va lui donner. Et c'est ainsi que progressivement, le peuple d'Israël va conquérir les territoires en Israël que Dieu lui a réservés. Pour son bien, pour qu'il y habite avec le Seigneur. Ces victoires, ces conquêtes, si elles sont intéressantes, et je vous invite, si vous avez le temps, à relire ces 12 premiers chapitres, si elles sont intéressantes et si elles sont pour nous qui lisons la parole de Dieu un puits d'enseignement, eh bien, elles doivent avant toute chose orienter nos yeux vers ce temps où un nouveau Josué, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, veut désormais régner sur les cœurs. Et c'est ce que les 12 premiers chapitres de Josué veut nous montrer. pas seulement les conquêtes d'Israël, ce qu'il a accompli avec la puissance de Dieu, mais nous montrer l'ombre des choses à venir, qui eh bien, se cristallisera, qui se cristallise aujourd'hui en Jésus-Christ, assis à la droite du Père, et qui encore aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, veut régner sur les cœurs et les conquérir, au même titre que Israël a pu le faire en son temps par la puissance de Dieu. Les évangiles nous montrent qu'il l'a fait maintes et maintes fois conquérir les cœurs. Prenons quelques versets de la parole. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. On va lire quelques versets. Verset 8. 1 Jean, chapitre 3. Verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Comment le Seigneur Jésus va pouvoir conquérir les cœurs encore aujourd'hui? En détruisant les œuvres du diable. Parce que si nous ne sommes pas à Christ, nous sommes à qui? Il n'y a pas 36 solutions. Nous sommes sous la domination de notre ennemi de toujours, le diable. Le Seigneur Jésus, dans sa position actuelle auprès du Père, dans sa gloire et dans sa toute puissance, parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, à l'objectif pour reconquérir les cœurs ou pour les conquérir, de détruire les œuvres du diable. Le saviez-vous? Les œuvres du diable sont là pour nous faire croire que nous n'avons pas besoin de Dieu, ni de salut. Et que nous pouvons vivre sur cette terre en toute liberté. Même si l'on voit qu'il y a beaucoup de difficultés. Continuons à manger, à boire, à se marier, à marier nos enfants, nous dit la parole de Dieu, sans nous soucier de quoi que ce soit d'autre. Mais si nous réagissons ainsi, malheureusement, nous sommes inconscients de ce qui se passe réellement dans les cieux. Nous sommes, à ce moment-là, sous la domination de notre ennemi. Et si le Seigneur Jésus ne fait pas quelque chose pour nous, alors il ne se passera rien d'autre pour l'humanité d'être perdue à jamais. Mais le Seigneur est assis à la droite du Père, et le deuxième aspect de son ministère actuel est de conquérir les cœurs. Comme il l'a fait pour moi, comme il l'a fait pour toi, comme il l'a fait pour vous, si vous êtes à Christ aujourd'hui. Nous connaissons le sujet principal de la prédication de Jésus. Dans Matthieu chapitre 9, verset 35, en particulier, la parole nous apprend que le Seigneur prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et la bonne nouvelle du royaume... De quoi s'agit-il? De quel royaume s'agit-il? Mais du sien. Il prêchait le royaume, l'évangile du royaume de Dieu, de manière à ce que ses auditeurs puissent le comprendre, s'en saisir, et ainsi par la foi entrer dans le royaume de Dieu et être libérés du royaume des ténèbres dans lesquels ils étaient plongés jusque-là. C'est cela ce que Dieu en Jésus-Christ veut faire encore aujourd'hui. Jésus, dès ici-bas, par sa venue, a donc lancé en quelque sorte une campagne de reconquête. C'est ce qu'il a fait en venant sur terre. en chassant le diable et en commençant, dès lors qu'il était ici-bas, à mettre ses ennemis sous ses pieds. Jusqu'à ce que ce jour arrive, que le psaume 110 prévoit, jusqu'à ce que tous ses ennemis, dans sa totalité, soient placés sous ses pieds. Donc, entre le moment où Jésus est venu sur terre et le moment où la terre ne sera plus, il se passe ce temps où Jésus, le Seigneur Jésus, de là où il est, dans sa gloire, veut conquérir ou reconquérir les cœurs. Ce ministère de conquête des âmes, Jésus donc l'avait commencé dès ici-bas. Et il faut, je crois, remonter très loin pour savoir, mais comment en étions-nous arrivés à ce point où Jésus a dû, en venant ici-bas, reconquérir les cœurs? Il faut remonter loin dans la Genèse. Et ça, vous connaissez cette histoire. Dans Genèse chapitre 1, Dieu avait dit à Adam et Ève et à sa descendance de dominer sur toute la terre. Mais malheureusement, en péchant, Adam et Ève se sont placés sous la domination du diable, dès le départ. Dieu a dû, par conséquent, décider, dans le temps, de détruire les œuvres du diable afin d'arracher tous ses enfants de sa domination pour les placer dans le royaume de Dieu. Et cela grâce au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est venu sur cette terre pour détruire les œuvres du diable. Oui, et lui arracher une quantité d'âmes inconscientes qu'elles lui appartiennent en leur offrant grâce et salut. Alors est-ce que, frères et sœurs, on est bien conscient que ça a été le rôle du Seigneur Jésus de conquérir nos cœurs à chacun, afin que nous passions de ce territoire des ténèbres pour être placés dans le royaume de la lumière, du royaume de Dieu. Et ça, c'est formidable de voir ça, ce plan rédempteur de Dieu. Oui, le Seigneur Jésus, dès ici-bas, est parti à la conquête des cœurs en sauvant les hommes par sa grâce. Et je pense à ce verset qui se trouve dans Romains chapitre 2, verset 4, qui nous dit « Mais ne reconnais-tu pas la bonté de Dieu pour qu'elle te pousse à la repentance ?» Et si vous êtes dans ce cas ce matin, vous n'avez pas encore franchi ce pas de la foi pour venir à Jésus-Christ, ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Se repentir, c'est non seulement demander pardon à Dieu, mais aussi changer de vie en laissant l'Esprit de Dieu nous conduire dans toute la vérité et pour que nous donnions gloire à Dieu à travers notre vie. Maintenant, il y a une question qui va se poser. Jésus est remonté au ciel depuis plus de 2000 ans. Peut-être cette question, vous l'êtes posée, il n'y a rien de changé sous le soleil. Le Seigneur Jésus continue à conquérir les cœurs. Mais comment le fait-il, puisqu'il est au ciel? Comment fait-il ça? Comment est-il possible encore qu'il y ait des âmes qui se convertissent? Comment est-il encore possible que des personnes viennent à Christ par la foi, alors que Jésus n'est plus là? Il est assis à la droite du Père dans sa gloire. Pourtant, ce travail s'accomplit toujours aujourd'hui. Et cela, frères et sœurs, vous l'avez compris, ne peut se faire qu'à travers l'Église qui est son corps, qui est le corps de Christ et dont Jésus-Christ est la tête. Quelques textes nous aideront à mieux comprendre cela. Et là, nous sommes au cœur du sujet. Hébreux chapitre 10, versets 11 à 13. Hébreux chapitre 10, et vous allez voir que la parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu. Parce que ce texte de Hébreux chapitre 10, 11 à 13, n'est pas très clair. On y est. « Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Mais alors s'il attend, rien ne se passe. Non ? Vous êtes d'accord ? Il attend. Alors rien ne se passe. Mais la parole s'explique par la parole. Prenons Éphésiens chapitre 1, qui apporte un complément précieux à ce passage d'Hébreux 10. Car peut-être avons-nous parfois tort, frères et sœurs, de lire une partie de la parole de Dieu et de se convaincre, d'être convaincu par un verset ou d'être troublé par un verset, en oubliant que la parole de Dieu se justifie par elle-même. Elle apporte son complément par elle-même. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23. Et là, on parle de la puissance de Dieu. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus donc présent et agissant à travers l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est ça l'Église, habitée par l'Esprit de Jésus, pour accomplir le plan, les objectifs et la volonté de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ à travers son Église. C'est pas formidable ça ? C'est extraordinaire. Et puis enfin, Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11, précise que des genoux fléchiront tous, et même jusqu'à terme, à l'écoute du nom de Jésus. Est-ce que ce sont les anges qui vont parler aux hommes du nom de Jésus pour conquérir les cœurs et les amener à la foi en Christ ? Non. Est-ce que c'est Jésus lui-même qui va le faire ? Pas tout à fait. Parce qu'il est assis à la droite de Dieu désormais. Mais alors qui ? C'est l'Église. Frères et sœurs, c'est-à-dire vous et moi, qui aujourd'hui sommes chargés par le Maître de parler de lui, d'annoncer et de proclamer le beau nom de Jésus, et ainsi, de cette façon, avec la puissance que de l'Esprit du Seigneur Jésus, conquérir les cœurs qui doivent appartenir au Seigneur. C'est le plan du Seigneur pour son Église. En fait, on peut dire ceci, à chaque fois que nous parlons, ou annonçons, ou proclamons d'une manière ou d'une autre le nom de Jésus, alors l'Église participe activement au ministère actuel de conquête du Seigneur Jésus-Christ, de conquête des cœurs par le Seigneur Jésus-Christ. Regardons Marc chapitre 16, qui nous apporte un complément précieux. Versets 19 et 20. Marc chapitre 16, versets 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. On est en plein au centre du sujet. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Sans le voir, les disciples, partaient et travaillaient, étaient au service de Dieu, et la parole nous dit que le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur partait avec eux à la conquête des cœurs, bien qu'il soit au ciel à la droite du Père, par l'intermédiaire de son esprit qui était répandu dans le cœur de ses disciples, pour qu'à leur tour, ils parlent, ils annoncent, ils prêchent le royaume de Dieu et de cette façon conquérir les cœurs pour qu'ils viennent par la foi à Jésus. C'est nous maintenant qui en sommes responsables, mes amis, frères et sœurs. Bien que le texte de Marc nous affirme que Jésus ressuscité est à l'œuvre avec nous par son esprit, c'est le rôle de l'Église, quelle que soit sa taille, petite ou grande, de travailler avec le Seigneur Jésus-Christ et par la puissance de son esprit pour conquérir les cœurs perdus dans ce monde et qui sont encore dans le territoire des ténèbres que Jésus veut conquérir. Les chrétiens, donc, depuis la résurrection de Jésus, participent à ce travail de conquête. Et Jésus, comme ce verset 19 et 20 vient de nous le montrer, s'engage à faire reculer les œuvres du diable, les faire disparaître, les chasser, comme il l'avait fait d'ailleurs quand il était ici-bas pour beaucoup de personnes qu'il avait sauvées de cette façon, de manière à nous sortir, à nous arracher de ce royaume que l'ennemi a volé au Seigneur. Car l'ennemi est un usurpateur, puisque toute la terre appartient à Dieu. Toutes ses créatures appartiennent à Dieu. Mais le diable les lui a volées comme un usurpateur. Dieu veut reconquérir les cœurs ou les conquérir, si ce n'est pas le cas. Alors c'est un travail, frères et sœurs, je le reconnais, de longue haleine, qui demande, c'est vrai, foi, amour, courage et persévérance dans le temps, mais pour lequel le Seigneur s'est engagé à nous accompagner. Ouf! Autrement, ce serait vite terminé. Ce serait vite compliqué pour nous. On se serait vite découragé. Mais non, le Seigneur s'est engagé à être avec nous, à nous équiper, à combattre à nos côtés pour cela. D'ailleurs, ce travail de conquête par l'Église n'est pas sans fin. Heureusement. Et à un moment donné, la parole de Dieu nous annonce qu'il y aura une fin à cela. L'apôtre Paul nous parle de cette fin de conquête dans 1 Corinthiens chapitre 15. On peut regarder cela. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. 1 Corinthiens 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est pas le diable comme on le croit, c'est la mort. Et il va, à la fin, être vainqueur sur tous ses ennemis et les réduira tous à l'impuissance. Il y aura donc une fin, au moins pour l'Église, dans ce travail. Parce que, eh bien, Dieu a prévu ce temps de la fin où tout sera mis sous ses pieds par sa toute-puissance. Quel réconfort de savoir que le ministère actuel de Jésus inclut la victoire sur tous ses ennemis dont la mort fait partie. Apocalypse chapitre 21, verset 4, ne cherchez pas, nous décrit ce moment historique. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Mais en attendant ce jour du retour glorieux du Seigneur, qu'il nous faut, frères et sœurs, attendre avec foi et persévérance, dans la prière aussi. Dieu, dans sa sagesse, a fait de chaque chrétien un sacrificateur. Et c'est ce petit cœur, si on a le temps tout à l'heure, que nous allons chanter à celui qui nous aime. Il a fait de nous des sacrificateurs, c'est-à-dire des gens qui sacrifient leur vie. Dans le sens de consacrer sa vie, en réalité, au service de Dieu, au service du Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu non pas seulement notre Sauveur, mais aussi notre Maître, notre Seigneur. Au service de Dieu, donc, et aussi au service des autres, avec ce ministère que désormais le Seigneur Jésus confie à chacun. Alors que le Seigneur a promis de le faire avec nous, c'est-à-dire partir, pas individuellement, parce que c'est le rôle de l'Église, partir ensemble à la conquête des cœurs par la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Et cela, frères et sœurs, peut se faire de mille et une façons. Simplement en tendant la main avec un traité pour le remettre à une personne. Par une attitude digne d'être appelé un enfant de Dieu face à des situations qui peuvent se présenter. Montrant l'exemple à ses enfants, à sa famille, à ses voisins, glorifiant Dieu par sa vie. Jésus est assis à la droite de Dieu jusqu'à ce que ses ennemis soient son marchepied. Il attend, nous dit la lettre des Hébreux. Mais c'est façon de parler. Parce que au nom de Jésus, le travail désormais se fait dans l'annonce et la proclamation de l'Évangile par l'intermédiaire de l'Église conduite par le Saint-Esprit. Je le redis parce que c'est quelque chose, je crois qu'aujourd'hui, nous oublions trop souvent. Nous aimons bien être édifiés dans la parole de Dieu, entendre des messages qui nous fortifient, qui nous permettent de passer une bonne semaine, peut-être tranquille. Mais nous oublions le mandat que Jésus a confié à l'Église, et donc à chacun de nous si nous sommes chrétiens. C'est de parler de lui. C'est d'être pour lui un témoin vivant. J'aimerais ajouter aussi que tous ces passages lus, et il y en a tellement d'autres, doivent nous interpeller. D'abord, l'incroyant. Peut-être y en a-t-il parmi nous, je ne sais pas. Interpeller dans le fait de, pour lui, d'être encouragé à recevoir un autre prince, un autre roi que celui dont la Bible, que celui dont la Bible nomme le prince de ce monde. Alors on se croit libre aujourd'hui, quelle illusion. S'il n'appartient pas à Jésus-Christ, alors il est sous la domination du diable et il a besoin d'en être arraché par le Seigneur. Et puis pour ceux qui lui appartiennent, nous avons besoin que le Seigneur nous rappelle ces choses essentielles. Paul l'a dit aux chrétiens de Colosse, s'incluant lui-même dedans. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens chapitre 1, verset 13. Pas pour que nous restions statiques, mais pour que nous puissions le servir par l'Esprit qui est en nous, l'Esprit du Seigneur qui est en nous. Et effectivement, lorsque on vient à Jésus-Christ, étant transporté dans son royaume, il est important de savoir qu'il nous est nécessaire de changer à ce moment-là les principes qui gouvernaient jusque-là notre vie. Et de cette façon, ayant reçu Jésus-Christ dans notre cœur, pouvoir être devant Dieu, mais aussi devant les autres, une véritable nouvelle créature comme nous le sommes devenus en Jésus-Christ. Est-ce que maintenant que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, entrés dans son royaume, n'est-il pas normal que ma vie soit conforme à ce que Dieu veut pour moi? Ben oui, parce qu'il est mon Seigneur. Et pas seulement mon sauveur. C'est pourquoi, on étudie régulièrement la parole de Dieu, pour comprendre mieux ce qu'il nous dit, mieux sa pensée, mieux ses ordonnances, mieux ce qu'il désire de nous et de son Église, pour comprendre et recevoir dans nos vies les principes donc qui régissent le royaume de Dieu dans lequel nous avons été les uns et les autres introduits par le Seigneur Jésus-Christ. Autrement, ce serait une foi toute superficielle que nous professerions. Frères et sœurs, le monde qui nous entoure a besoin d'entendre parler du nom de Jésus aujourd'hui. Vous entendez ce qui se passe en ce moment ? À l'approche des élections. On veut changer le monde. On veut changer la société. On veut l'améliorer. On veut qu'elle soit meilleure. Mais ce monde, frères et sœurs, va passer. Il n'y a pas d'amélioration possible. Si le cœur de l'homme n'est pas changé, vous l'avez compris cela. L'Église a donc reçu ce mandat par le Seigneur Tout-Puissant. Non pas de changer la société, non pas de la modifier, non pas de l'améliorer même un peu, ça servira strictement à rien. Car le cœur de l'homme, s'il reste inchangé, sera toujours le même. Et ça ira toujours de pire en pire. La parole de Dieu l'annonce d'ailleurs. Dans la fin des temps, les gens deviendront ça. Nous y sommes. Et cela va encore empirer. C'est certain. Parce que notre terre se détériore, on le voit. Et le monde panique. Il deviendra donc toujours plus violent, plus égoïste. Et si le cœur des hommes et des femmes ne change pas, ça ne servira à rien de vouloir changer quoi que ce soit. On va améliorer les choses un petit peu, mais ce sera éphémère, de courte durée. Non ? Jésus lui-même s'est engagé à partir à la conquête des cœurs pour les racheter et les sauver. « Moi, je vous ai choisi, dit-il à ses disciples, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Il leur a dit aussi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez ! Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce temps où, par sa toute-puissance, tout sera placé sous sa domination. » Mais c'est pas encore fait. C'est pas encore le cas. Alors, il me faut donc changer le titre de ma méditation. Pardon. Ce n'est pas « Jésus veut conquérir les cœurs ». Ah, je me suis trompé. Pas tout à fait, quand même. C'est plutôt « Jésus avec son Église ». Par son Église. À travers son Église, à travers ou par vous et moi, veut conquérir les cœurs. Tout en étant lui-même à nos côtés par sa toute-puissance. Et cela, mes amis, frères et sœurs, ça doit nous encourager à aller de l'avant sur ces choses. Jésus s'assit à la droite de Dieu, nous dit Marc chapitre 16. Et ils s'en allèrent prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux. Ça, c'est un encouragement. Ça m'a vraiment encouragé lorsque je lisais ces passages, et j'espère que vous serez encouragés également. Est-ce que nous voulons faire partie de la même équipe que ses disciples, même s'ils ne sont plus de ce monde, mais cette même équipe spirituelle que Jésus-Christ a bâti à travers l'Église, voilà, qui est son corps, qui est sa gloire et dont il est la tête. Travaillons donc ensemble comme des serviteurs, comme des sacrificateurs, pour faire connaître le nom de Jésus tout en nous laissant diriger par son esprit. Pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 57 et 58, nous dit ceci, 1 Corinthiens 15, 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Même sur ces choses, hein, il nous donne la victoire, la conquête des cœurs. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. » On peut être... chancelant hein, dans le monde d'aujourd'hui, hein, quand on voit tout ce qui se passe. Et non, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Par la foi, on peut l'être. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il saura, le moment venu, récompenser ses enfants pour le travail accompli, le fait qu'ils se sont mis à l'œuvre comme des serviteurs, comme des sacrificateurs, tels qu'ils le sont devenus par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas à lui ce matin, peut-être vous vous reconnaissez. C'est que vous êtes encore sous la domination de l'ennemi des âmes. Jésus a versé son propre sang, alors, croyez-le, pour vous arracher à lui. Pensez-y sérieusement. Parce que c'est de votre salut éternel dont il s'agit. Que que le Seigneur nous bénisse tous. Et je vous invite à vous lever pour chanter ce merveilleux chœur à celui qui nous aime. Et je terminerai par la prière et nous pourrons nous saluer les uns les autres fraternellement.
Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, parce que tu nous rappelles que tu es monté au ciel, que tu pries pour nous et que tu veux conquérir des cœurs, parce que les hommes sont esclaves du péché, du diable, de la mort, et que tu veux les délivrer. C'est pour cela que tu étais venu sur terre. Et c'est par ton Église qui est ton corps que tu opères cette délivrance. En te priant, Seigneur, de nous armer de courage, de foi pour accomplir ce travail, de nous armer aussi, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, la prière en particulier, parce que nous ne combattons pas la chair et le sang, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous avons besoin d'être fortifiés puissamment par ton esprit. Alors nous te prions, Seigneur, que avec le temps qui avance, nous ne nous attachions pas aux choses de la terre, mais aux choses d'en haut, que nous puissions aussi accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, pour que nous puissions les faire et que nous puissions ainsi te glorifier, avoir la joie aussi de voir des hommes et des femmes se donner à Christ et rejoindre la famille de Dieu. Pour ta gloire, nous te prions. Amen.